Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Suite des matins avec l'une de ces informations, vous savez, qui généralement passe sous les radars, ces lois un peu étranges. Le Sénat a créé jeudi 11 avril un délit d'entrave pour sanctionner plus sévèrement l'action d'empêcher de chasser. Je répète, l'action d'empêcher de chasser. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de consacrer une matinale aux droits des animaux et au bien-être animal avec vous. Tout d'abord, Brigitte Gauthier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondatrice de l'association L214 qui dénonce à travers des vidéos notamment la maltraitance animale. Vous avez publié La face cachée de nos assiettes chez Robert Laffont. Votre réaction à cette décision du Sénat ?
Ben, quelque part, elle n'est pas étonnante. Aujourd'hui, on a des parlementaires et un gouvernement qui agissent totalement à l'encontre des intérêts des animaux. On l'a vu pendant la loi alimentation en 2018. Ou des mesures tout à fait consensuelles, tout à fait simples, comme l'interdiction des cages pour les poules pondeuses, ou l'instauration d'un contrôle obligatoire dans les abattoirs sur les postes où les animaux sont encore en vie ou sont mis à mort. Tout a été rejeté et on voit bien que les chasseurs et l'élevage intensif a l'oreille attentive de nos dirigeants. Mais pas les animaux.
Alors, pour le moment, donc, cette loi,
est en discussion.
Elle est en discussion, ça n'est pas encore une loi définitive. Mais qu'est-ce qu'elle signifie ? Qu'il y a un lobby important, le lobby des chasseurs, et qu'il faut le ménager ?
A priori, oui, c'est un calcul qui est fait de cette façon-là. Et on voit bien dans les débats, nous, on suit plus particulièrement le lobby de l'élevage intensif, mais par exemple les discussions qui ont eu lieu autour de l'interdiction des cages pour les poules pondeuses. On a vu le ministre de l'Agriculture, on a vu les parlementaires s'inquiéter de savoir si une mesure complètement insignifiante, c'est-à-dire l'interdiction des nouvelles installations de cages pour les poules pondeuses, il n'y a plus aucune installation, nouvelle installation qui se fait depuis des années. Mais ils ont voté un amendement.
Oui, moi je pensais qu'il y avait au contraire des nouveaux poulaillers industriels qui s'ouvraient.
Alors industriels, certes, c'est-à-dire en élevage au sol, etc. Mais en cage, non, puisque justement grâce à l'action d'associations comme L214, on a aujourd'hui plus de 150 entreprises, que ce soit des restaurateurs, que ce soit des chaînes d'hôtellerie-restauration, des fabricants et même des producteurs eux-mêmes, qui se sont engagés d'ici 2025 à ne plus utiliser ou ne plus produire d'œufs de poule élevés en cage de batterie. On a on a plus d'opportunités quelque part pour l'élevage en cage. Et donc du coup, au moment du vote de cette loi, on a vu sur les bancs de l'Assemblée les députés s'agiter en disant « mais est-ce que les professionnels de l'œuf sont d'accord avec cette loi qui ne change rien puisqu'elle entérine juste l'existant ?» Et le ministre de tweeter, après le vote, avec le CNPO, nous avons acté telle chose. Donc on voit bien l'influence des lobbies, notamment des lobbies de l'élevage intensif, des lobbies de la viande, sur les décisions qui sont prises au gouvernement.
Brigitte Gauthier, dites-nous un peu ce qu'est L214, parce que on entend souvent parler de votre association, notamment à chaque fois que vous diffusez une vidéo qui montre dans quelles conditions les animaux sont tués dans les abattoirs, mais finalement on sait assez peu de choses sur vous.
Alors L214, c'est une association, donc un ensemble de personnes qui à un moment, devant une injustice sévère à l'égard des animaux, s'est dit il nous faut faire quelque chose. Et donc L214, c'est une association qui lutte pour la défense des animaux et qui concentre son action sur les animaux que nous exploitons en plus grand nombre. En fait, 99% des animaux exploités par les êtres humains le sont pour la consommation alimentaire, dans tout ce qui est production de viande, lait, œufs et poissons. Et donc on a trois axes, grosso modo, qui visent à essayer de réduire la souffrance de ces animaux le plus qu'on peut. Donc on a un côté où on va donner de l'information, montrer la réalité de ce qui se passe dans les élevages, dans les transports, dans les abattoirs, dans les piscicultures, sur la question de la pêche. Donc là, ça va être un travail d'information sur les conditions de vie et de mort des animaux, mais aussi sur les conséquences autres, c'est-à-dire environnementales, sanitaires, sociales, de la production de viande aujourd'hui. Le deuxième pan, ça va être essayer de faire reculer concrètement Les cruautés qui sont faites aux animaux, qui sont des cruautés structurelles, par exemple, faire l'interdiction des cages pour les poules pondeuses, interdire la castration à vif des porcelets, interdire l'abattage sans étourdissement ou celui avec le dioxyde de carbone. Donc, c'est des mesures très concrètes et là-dessus, on avance sur quelques chantiers. Alors, pas au niveau politique, mais au niveau des entreprises. Et puis, le troisième pan, ça va être, si on a des conditions d'élevage qui sont à ce point concentrationnaires aujourd'hui, avec des animaux qui sont entassés par milliers dans les élevages et qui sont tués par millions tous les jours dans les abattoirs. On tue plus de 3,5 millions d'animaux dans les abattoirs aujourd'hui. C'est parce qu'on consomme énormément. Et donc, il y a à jouer sur notre consommation, faire baisser la consommation. Et L214 est une association abolitionniste, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on reconnaît que les animaux sont des êtres doués de sensibilité, qui ont l'envie de vivre, qu'on n'est pas obligé, on n'est pas dans le besoin, dans la nécessité de consommer des produits d'origine animale pour vivre en bonne santé, nous, en tant qu'êtres humains, alors on devrait se poser des questions sur la légitimité de continuer à faire tuer des animaux aujourd'hui, alors qu'on n'en a pas besoin.
Mais alors, justement, quel est votre programme à cet égard, Brigitte Gauthier? Parce que la question animale est aujourd'hui dans l'actualité. C'est quelque chose dont on parle, mais il y a des contours extrêmement flous. Alors, est-ce que L214, par exemple, c'est une association de Khmer Vert? Est-ce que vous voulez nous mettre au tofu immédiatement? Quels sont vos buts? Est-ce que vous êtes, par exemple, favorable au véganisme? D'ailleurs, il ne serait pas inutile, à mon avis, de rappeler ce que désigne ce terme.
Alors, effectivement, L214, c'est une association qui propose un changement de civilisation, finalement. C'est-à-dire ne plus considérer les animaux comme des ressources alimentaires à notre disposition. Et on voit très bien, justement, que l'alimentation végane, donc qui n'utilise aucun produit d'origine animale, peut nous permet de consommer, de vivre, d'avoir les apports nutritionnels qu'il nous faut. Mais c'est un changement d'habitude alimentaire, finalement. Quelque part, on est plus tributaire de nos habitudes, puisque dans notre société, on est tous d'accord pour dire qu'on ne doit pas maltraiter et tuer sans nécessité. Or, dans notre façon de nous alimenter, tous les jours, à tous les repas, on implique des très grandes souffrances pour les animaux, et on implique aussi leur mort. Donc voilà, c'est quelque part, on propose une mise en cohérence de notre société par rapport à ses valeurs altruistes, à ses valeurs de compassion, à ses valeurs de bienveillance, qui doivent, qui peuvent, et qui s'étendent déjà aujourd'hui aux autres animaux. Enfin, ce qu'on fait subir aux animaux d'élevage, on ne le ferait pas subir aux chiens et aux chats, par exemple.
Mais alors, est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, de pouvoir continuer à consommer du lait, du fromage, se vêtir avec des vêtements en laine? Est-ce que ça, c'est envisageable dans votre représentation des choses, Brigitte Gauthier, vous qui êtes cofondatrice de l'association L214?
Alors, en tout cas, au niveau de consommation actuelle, hors de question.
Enfin, pourquoi ?
Voilà, pourquoi ? Parce que aujourd'hui, pour obtenir autant de lait, autant de produits laitiers, on a développé des races de vaches qui produisent énormément de viande, qui sont passées de 5 à 15 litres de lait destiné à leur veau, à une production qui est boostée en moyenne en France à 27 litres de lait par vache et par jour, et qui est poussée sur les plus grandes productrices à 100 litres de lait par jour. Enfin, je sais pas si vous voyez l'écart entre 5 litres d'un côté et 100 litres de l'autre, c'est juste énorme le pas qu'on a fait, et qui est permis grâce à la sélection génétique, tout simplement. Et donc un très grand nombre d'animaux, on voit la ferme des 1000 vaches, etc. Enfin, le fait de vouloir produire toujours plus, on va entasser davantage les animaux. Se pose aussi le problème sur la question du lait, c'est que si nous avons envie de consommer le lait, en fait, pour avoir du lait, il a fallu faire naître un veau, puisque les vaches sont des mammifères, il faut qu'elles aient un petit pour pouvoir avoir du lait. Or, ce petit nous gêne, puisque lui, il boit le lait. Donc, la production de lait, finalement, est intrinsèquement liée à la production de viande. C'est-à-dire qu'on va séparer le petit d'avec sa mère dès sa naissance, aux premières heures de sa vie, de façon à pouvoir, nous, exploiter les vaches de façon à récupérer le lait. Donc, existe-t-il une façon éthique de récupérer le lait? Effectivement, la traite des vaches ne les fait pas particulièrement souffrir, mais sauf que là, on considère une fois de plus les animaux comme des objets à notre disposition, comme des ressources à notre disposition, et souvent on n'est pas dans un rapport gagnant-gagnant. Les vaches sont les grandes perdantes, réformées au bout de 5 ans en moyenne, elles finissent en steak haché. Aujourd'hui, la moitié de la viande de bœuf, c'est de la viande de vache qui a d'abord été laitière pendant toute sa carrière entre guillemets, et puis le veau, lui, part, soit il va remplacer sa mère si c'est une femelle, soit si c'est une femelle en surplus ou un mâle, ils partent dans le circuit de la viande de boucherie immédiatement, notamment les veaux de boucherie qu'on consomme tant et plus.
Brigitte Gauthier, on a l'impression malgré tout qu'énormément de choses ont été faites pour les animaux, qu'il y a de plus en plus de lois, de règles. On a raison, on a tort selon vous, vous qui êtes, je le rappelle, cofondatrice de l'association L214.
Eh bien, on a beaucoup de paroles, beaucoup de blabla, mais on a finalement très peu d'action. On n'a jamais autant exploité et tué d'animaux qu'aujourd'hui, où effectivement, on n'a jamais eu peut-être autant de débats, de discussions autour de la condition animale. Alors, c'est pas un sujet nouveau, hein. Pythagore, entre deux triangles rectangles, déjà, il s'interrogeait sur la légitimité de faire mettre à mort des animaux pour les manger, alors que lui-même, déjà à l'époque, et il n'avait pas toutes les études de nutrition et de diététique qu'on a aujourd'hui à notre disposition, ne pouvait pas affirmer que c'était pas un besoin, qu'il n'allait pas avoir de carence, etc. Aujourd'hui, on sait faire autrement, assez facilement, et pour autant, on n'y va pas nécessairement. Donc voilà, c'est une question ancienne. Mmh. Et aujourd'hui, effectivement, on peut entasser des cochons. Aujourd'hui, on tue 25 millions de cochons par an. 95% d'entre eux viennent d'élevage, sans aucun accès à l'extérieur, élevés sur du caillebotis, c'est-à-dire des sols ajourés. En fait, ils sont élevés au-dessus de leurs excréments. Les truies sont enfermées dans des cases quand elles mettent bas avec leurs petits qui viennent têter au travers de barreaux. Elles peuvent juste se lever, se coucher, elles peuvent pas faire un pas en avant, pas un pas en arrière. Les poulets, on a des poulets qui sont des poulets à croissance rapide, qui grossissent 4 fois plus vite qu'en 1950. Ça développe chez eux, alors évidemment, énormément de muscles, c'est ce qu'on cherche à avoir, on cherche à avoir de la viande, mais ça se fait au détriment de leur santé. De leur santé, ils développent des boiteries, ils ont des problèmes pulmonaires, des problèmes cardiaques. Voilà, donc, et c'est 83% des poulets qui sont élevés de cette façon-là. Ça représente à peu près 600 millions de poulets élevés dans ces conditions, dans des bâtiments fermés, sans aucun accès à l'extérieur et dans des conditions de santé vraiment mauvaises.
Bon, mais il existe des labels, il existe un certain nombre de pratiques qui sont garanties dans des élevages. Est-ce que dans ce cas-là, vous conseilleriez de s'orienter tout d'abord vers ce type d'élevage, Brigitte Gauthier ?
Alors effectivement, il y a la question des labels. Alors il y en a plein qui veulent rien dire. Hein. Les indications géographiques, les AOP, AOC, enfin voilà, vous pouvez avoir
Label
aussi...
rouge, ça veut dire quelque chose ?
Alors le label rouge, ça dépend pourquoi. Effectivement, sur un certain nombre de labels rouges, les animaux ont au moins un accès à l'extérieur, ce qui est quand même moins pire que d'être enfermé dans une cage, par exemple. Mais néanmoins, par exemple, pour le label rouge, pour les cochons, certains ne sortent pas à l'extérieur, n'ont pas d'accès à l'extérieur. Hein, donc voilà, ce qui est un critère quand même assez important par rapport aux impératifs biologique de l'espèce par rapport au fait ou non de pouvoir avoir un certain nombre de comportements qui sont possibles. Hein. Dans les cages, les poules, elles peuvent pas étendre les ailes sans se gêner les unes les autres. C'est la même chose pour les poulets. Pour les lapins, dans les cages, on a 6-7 lapins par cage entassés les uns sur les autres. C'est eux qui reçoivent d'ailleurs le plus d'antibiotiques par rapport au nombre qui sont le plus exposés, en tout cas, à l'antibiothérapie par des conditions d'élevage qui sont particulièrement difficiles. Donc les labels, c'est moins pire au niveau de l'élevage. Au niveau de l'abattage, ça reste la même chose. Hein. C'est les mêmes modes d'abattage qui sont appliqués. On a montré d'ailleurs les images des abattoirs comme le Vigan, Alès, Mauléon-Duchard, qui étaient avec des animaux qui étaient tués en circuit court, en différents labels, certifiés bio. C'était pareil pour l'abattoir de Limoges. Mmh. Donc ça ne change absolument rien aux conditions d'abattage qui sont tout aussi terribles pour les uns et les autres et qui signifient terreur, violence et puis surtout, ils y perdent de la vie. Et au niveau des conditions d'élevage, c'est un peu moins pire, mais même en bio, vous avez le droit de castrer à vif, par exemple, des cochons.
Bon, alors, on continuera à discuter vos arguments dans quelques instants, puisque vous serez en compagnie de Paul Ariès, qui a un point de vue différent sur la condition animale. Mais malgré tout, il y a dans vos aspirations, vos demandes, Brigitte Gauthier, quelque chose qui est en quelque sorte très éloigné des aspirations des Français et des personnes qui aspirent à manger de la viande, à en manger plus qu'auparavant. Et le fait de manger de la viande fait partie, ou faisait partie, je ne sais pas quel temps employé, de l'élévation du niveau de vie et de l'élévation du bien-être humain. C'est paradoxal, mais c'est ainsi. Mmh. Qu'est-ce que vous rétorquez à cela ?
Eh bien qu'en effet, sans doute, à des moments de notre histoire, la question de la viande a été primordiale et permettait de s'alimenter, répondait à un besoin. Et encore aujourd'hui, dans certaines régions du monde, ça peut encore être le cas. Maintenant, on est en France, on est même en surconsommation de produits d'origine animale qui nous provoquent un certain nombre, enfin qui offrent une prévalence à un certain nombre de maladies. Voilà, on a certains types de cancers, certains types de diabète, la cholestérolémie. Voilà, aujourd'hui, ça nous pose même des problèmes de santé publique par rapport à l'antibiorésistance de par la façon dont on élève les animaux, les grippes aviaires, les grippes porcines, etc. En fait, la consommation de produits d'origine animale aujourd'hui pose d'autres problèmes. Et puis, enfin...
Vous voulez dire qu'on se fait pas du bien ?
Bah, on se fait pas forcément du bien. Après, on n'est pas en train de dire que si on mange de la viande, forcément, on se mange en danger. Si on mange de la viande modérément, ou si on consomme vegan, enfin, on n'est pas en danger. Il y a pas de, c'est pas une question de santé des êtres humains. C'est une question de santé des animaux, puisque eux, ils y perdent de la vie. Et c'est une question de positionnement éthique vis-à-vis, des animaux. Qui, comme nous, sont des êtres sensibles. On a eu la déclaration de Cambridge en 2012 qui reconnaît que les animaux sont des êtres conscients. Voilà, ça va plus loin que juste la sensibilité.
Tous les animaux, parce que là aussi,
c'est très largement discutable, mais au moins, aujourd'hui, tous les animaux qu'on élève et qu'on mange, tous les animaux terrestres, là, c'est complètement clair, les oiseaux, donc les poules, les poulets, les dindes, les vaches, etc.
Sur...
Et on le sait, les chiens, si on vit 5 minutes avec, on voit très bien, souvent on dit, oh, il ne leur manque que la parole, le chat, on sait très bien quand il est du mauvais côté de la fenêtre, enfin, voilà.
On va revenir sur ces questions-là, mais alors, parce que là aussi, les éleveurs en France disent qu'ils sont, par exemple, victimes d'une concurrence. Alors, par exemple, l'élevage en plein air des agneaux en Nouvelle-Zélande, il est forcément rendu possible par des conditions naturelles que je n'ai pas besoin de détailler. Alors, du coup, les éleveurs en France, eux, ils sont obligés d'utiliser d'autres manières de faire. Est-ce que finalement, vos revendications, elles ne pénalisent pas de manière mécanique les éleveurs français ?
Nos revendications, elles portent sur un système aujourd'hui qui fait que on considère vraiment les animaux comme de la matière première à notre disposition. Donc non, je crois pas. Enfin, nos revendications, elles amènent à diminuer la consommation et effectivement à être un peu plus attentif pour ceux qui continuent à consommer des produits d'origine animale. Un peu plus attentif aux conditions d'élevage et d'abattage des animaux. Bien que sur les conditions d'abattage, on n'a rien du tout comme moyen. Enfin, tous les abattoirs pratiquent la même chose. Donc, voilà. Mais non, je dirais pas qu'on est du tout sur ces considérations-là.
Brigitte Gauthier, l'une des fondatrices de l'association L214, La face cachée de nos assiettes, c'est le livre que vous avez publié chez Robert Laffont. Je vous ai permis d'exposer vos thèses afin de mieux comprendre quelles étaient vos revendications et on les discutera dans quelques instants en compagnie de Paul Ariès qui est politologue spécialiste de l'alimentation, qui se définit comme militant écologiste mais qui a un point de vue différent sur la condition animale. Il est 8h sur France Culture, très bon réveil à tous. Et nous sommes en compagnie de Brigitte Gauthier, l'une des cofondatrices de l'association L214. On vous a entendu, Brigitte Gauthier, nous dire dans quelle mesure il faudrait tendre vers la fin de l'utilisation des animaux pour notre nourriture, mais aussi probablement dans toutes les situations de la vie où ceux-ci sont instrumentalisés. Vous avez fondé cette association L214 qui milite à travers des vidéos, notamment contre la maltraitance animale, et vous avez publié La face cachée de nos assiettes chez Robert Laffont. Nous accueillons désormais Paul Ariès à côté de vous, Brigitte Gauthier. Bonjour Paul Ariès.
Bonjour.
Vous publiez Lettre ouverte aux mangeurs de viande qui souhaite le rester sans culpabiliser, avec une sorte de tampon rouge comme ça pour exciter l'esprit du lecteur. Pourquoi les véganes ont tout faux ? Vous êtes politologue, spécialiste de l'alimentation, vous vous définissez comme militant écologiste et vous êtes également animateur d'un appel pour la défense de l'élevage paysan et des animaux de ferme. Alors tout d'abord Paul Ariès, il faut nous dire comment vous envisagez nos relations avec les animaux, comment on peut concilier, s'il faut les concilier selon vous d'ailleurs, bien-être animal et volonté d'un certain nombre de personnes de continuer de manger de la viande.
Vous avez raison, je suis pas dans un combat binaire, gentil, méchant. J'essaye, avec beaucoup d'autres, de définir ce que pourrait être une troisième voie entre, d'un côté, la production industrielle de protéines animales à bas coût, ce que j'appellerais la sale viande, et d'un autre côté, les fausses viandes, c'est-à-dire toujours plus d'industrialisation, de productivisme. Et moi, je ne défends pas mon droit au beefsteak, je défends avant tout le droit à l'alimentation de 8, 9, 10 milliards d'humains. Je défends le droit à vivre d'un milliard, 200 millions de petits paysans. Et si je m'en suis pris à ce qu'on appelle aujourd'hui le véganisme, c'est d'un point de vue écologique, d'un point de vue antiproductiviste, et parce que je considère que finalement le véganisme est aujourd'hui un peu l'idiot utile du capitalisme productiviste qui veut effectivement finir avec toute forme d'élevage, et pas simplement avec l'élevage industriel, pour développer les biotechnologies alimentaires.
Alors ça c'est quand même assez contre-intuitif, parce que les véganes sont pour la plupart des militants plutôt anticapitalistes, plutôt classés au contraire dans l'opposition du système productiviste actuel, donc il faut que vous nous expliquiez ce que vous visez là, Paul Ariès.
Alors déjà, le véganisme est une grande famille, avec ses courants et ses sous-courants. Mais moi, mon premier objectif était de...
Paul Ariès, quel courant et sous-courant ?
Alors, vous avez cité effectivement la présence de milieux, je dirais, anticapitalistes. Et c'est certain. Et c'est vrai que je préfère fortement discuter avec Brigitte, une militante anarchiste assumée et de longue date, plutôt qu'avec des milieux végans.
On va lui demander, parce qu'elle est à côté de vous. Je ne sais pas si elle est...
On se pose des questions en fait en étant antispéciste, c'est-à-dire en remettant en question cette frontière qu'on a mise, qui fait que aujourd'hui notre envie, notre désir de manger de la viande passe avant même la considération pour la vie des animaux. On est dans une démarche bienveillante, mais qui est bienveillante à l'égard de tout le monde. C'est-à-dire, on dénonce un système, on n'est pas contre des personnes, on est contre un système. Et du coup, ce système, effectivement, aujourd'hui, on voit que nos systèmes économiques, nos systèmes politiques, créent beaucoup de souffrance aussi pour les humains. Vos informations juste avant, là, elles étaient juste édifiantes à ce sujet aussi, quoi. On continue de massacrer, de s'entretuer, finalement, entre humains. Donc, effectivement, la question animale, c'est comment
on est dans notre compassion. Ce qui est une bonne manière aussi de répondre, parce qu'on a eu quelques commentaires, on les a à chaque fois qu'on parle de la condition animale, de dire qu'on devrait s'occuper des êtres humains.
Non, on a un très bon exemple, c'est Mathieu Ricard, qui est à la fois un humaniste reconnu et à la fois un antispéciste, en disant que la façon dont on traite les animaux aujourd'hui n'est pas correcte.
Mais alors, juste sur un point pour répondre à Paul Ariès avant de lui redonner la parole, est-ce que vous vous considérez comme une militante anticapitaliste ? Est-ce que ça a un sens pour vous ? Est-ce que ça ne fait pas du tout partie de votre univers mental ?
Là, c'est une question qui est plutôt personnelle. Après, L214, nous, on est vraiment une association...
Oui, d'ailleurs, je vous la pose à vous, Brigitte.
Je vous la pose à vous. Oui, mais ma parole, elle emporte aussi l'ensemble de mon association.
Est-ce que c'est un combat de gauche ?
C'est un combat qui s'intéresse aux gens, vraiment aux individus. Essayer de faire le moins de mal possible, essayer de vivre le mieux possible en causant le moins de tort possible.
C'est une question qui vous embarrasse un peu.
Non, qui m'embarrasse pas un peu. Effectivement, aujourd'hui, on voit bien que la question du capitalisme est une question importante aussi sur laquelle on peut aller. Mais quelque part, vouloir nous emmener sur ce terrain-là, ça n'a rien à voir. Enfin, ce que propose Paul Ariès en disant moi je suis pas dans les gentils méchants. Nous aussi on n'est pas dans les gentils méchants. On est en train de dénoncer un système qui crée une grande souffrance pour les animaux, mais aussi une grande souffrance sociale. On peut parler des conditions de travail des ouvriers d'abattoir ou des éleveurs aussi qui souffrent également avec des revenus qui sont très bas pour un investissement qui est très fort. Et je ne parle pas que des éleveurs, des élevages intensifs, mais l'ensemble. Et puis la voie du milieu pour les animaux, enfin on les tue à moitié. Comment ça se passe ? Nous, ce qu'on cherche à promouvoir, ce sont des rapports gagnant-gagnant avec les animaux. Mais pour ça, il faut qu'on arrête de vouloir à tout prix tirer profit, qui est une démarche capitaliste, tirer profit des animaux.
Alors on va redonner la parole à Paul Ariès. Bon, moi, la plupart des gens que je connais dans le milieu vegan sont plutôt classés à gauche et dans un certain registre anticapitaliste. Quels sont les autres, Paul Ariès, juste pour nous permettre de préciser ce que vous visez ?
Mais moi j'ai écrit en fait cette lettre ouverte pour déconstruire tous les faux arguments concernant, je dirais, le véganisme abolitionniste. C'est-à-dire qui entend bien, effectivement, interdire non seulement l'élevage, mais la consommation de viande. C'est-à-dire que l'élevage paysan n'est responsable ni de la faim dans le monde, ni du réchauffement climatique, ni de la crise sur l'eau. Et j'ajoute qu'il n'est pas possible de manger ou de vivre, même quand on est végan, sans tuer d'animaux. Et ce premier objectif qui était le mien est largement réussi, puisque nous avons construit une réponse collective politique en lançant un appel pour la défense de l'élevage paysan et qui a été co-signé aussi bien par la Confédération paysanne, par le MEDEF, par Nature et Progrès, du côté, je dirais, des consommateurs, par Slow Food International, et
alors,
puis par toutes les grandes figures de l'écologie. Eh bien, cet appel, il nous dit que la vraie opposition n'est pas entre les protéines animales et les protéines végétales. Ça, c'est du spectacle. La vraie opposition est entre la production industrielle de protéines animales et végétales, et d'un autre côté, ce qu'on appelle l'élevage paysan, l'agriculture paysanne, c'est-à-dire la défense d'un milliard et demi de petits paysans à l'échelle mondiale.
Bon, mais alors, là aussi, parce que on les connaît, ces petits éleveurs, effectivement, ils sont généralement dans des conditions assez problématiques. En plus, il y a des problèmes qui se greffent là-dessus, le problème du loup, par exemple, et un problème supplémentaire, Polariès. Mais l'une des questions qui se pose est aussi le coût de l'alimentation. Il est quand même au cœur du débat en France, notamment avec la protestation des Gilets jaunes. Et là, on se demande comment cet élevage paysan, il pourrait satisfaire... Alors, non pas les militants de L214, mais cette fois-ci, les gens qui veulent manger de la viande et n'ont pas vraiment les moyens de le faire.
Mais je dirais, si on raisonne déjà globalement, c'est évident qu'il va falloir manger beaucoup moins de viande dans les pays riches, mais davantage dans les pays pauvres, dans les pays du Sud. Et puis j'ajouterais que si on regarde, y compris par rapport à la question des abattoirs, je dirais, moi je partage le constat sur les conditions effroyables dans un certain nombre d'abattoirs. En revanche, je suis en désaccord sur les causes et donc sur les solutions. Je dirais, l'ennemi numéro un de Bigard, c'est-à-dire le principal propriétaire des abattoirs en France, c'est pas L214, ce sont les abattoirs de proximité, c'est l'abattage à la ferme. Et d'ailleurs, Bigard a déjà annoncé qu'il était prêt à fermer de nombreux petits abattoirs en France. Mais le problème justement de la France, c'est le choix du gigantisme et l'absence de spécialisation dans les abattoirs. On compte en France 265 abattoirs seulement, c'est-à-dire 10 fois moins qu'en Allemagne pour le même volume de production. Et donc là encore, la vraie opposition n'est pas entre fermer ou laisser ouvert des abattoirs, ça c'est du cinéma, mais entre des abattoirs industriels et des abattoirs de proximité sous contrôle des éleveurs et des bouchers.
Bon, mais alors, concrètement, Polariès, que j'ai posé la question tout à l'heure à Brigitte Gauthière, quand vous prenez par exemple la filière avicole avec tous ceux qui veulent manger des poulets, qu'est-ce que vous faites ces différents types de poulets? Certains ont des labels, d'autres n'en ont pas. On sait très bien qu'il existe des poulets qui sont des poulets élevés en batterie, dans des conditions voilà, que chacun connaît et que d'aucuns trouveront insupportables. Est-ce que vous supprimez ce type d'élevage? Est-ce que vous obligez du coup les gens à manger moins de poulet mais à le payer plus cher? Qu'est-ce que vous faites, vous?
Alors je crois que la première chose, c'est qu'il faut défendre la biodiversité, à la fois végétale et animale. Et puis je crois qu'on ne manque pas d'imagination pour donner le droit à l'alimentation à tout le monde. Moi je suis par ailleurs l'un des militants de l'Observatoire international de la gratuité. Et nous avons lancé récemment un appel pour la gratuité de la restauration sociale et d'abord scolaire. C'est-à-dire que je crois que le droit au bio, c'est effectivement quelque chose d'essentiel. Et vous avez raison, il y a encore un siècle, je dirais que on distinguait le porc ouvrier, le lapin paysan, le veau bourgeois. C'est-à-dire chaque milieu social avait sa propre table, avec la même fierté, la même authenticité. Sauf qu'aujourd'hui, c'est poulet pour tout le monde. Sauf que c'est pas le même. Pour une infime minorité, et vous avez raison, c'est du poulet bio, du poulet fermier, et pour l'immense majorité, c'est de la volaille de batterie. Et donc, ce qu'il faut, c'est changer la logique industrielle, changer la logique productiviste, mais pour cela, refuser ce qui nous menace. Et pourquoi parle-t-on tant aujourd'hui du véganisme? C'est parce qu'il rencontre, en fait, volontairement ou involontairement, les objectifs qui sont ceux du lobby financier, qui est de mettre fin à l'élevage, à toute forme d'élevage.
Mais là, j'avoue que j'ai un peu du mal à vous suivre, parce que produire de la viande avec des protéines, que sais-je, c'est probablement quelque chose que l'on fait aujourd'hui en laboratoire, de manière extrêmement coûteuse. Donc on est encore très loin quand même de soleil vert et d'individus qui vont nous livrer de la viande reconstituée, pas reconstituée à partir de viande, mais reconstituée à partir de choses qui justement n'en sont pas. Donc est-ce que vous ne brûlez pas un peu les étapes ?
Ah, c'est pas moi qui brûle les étapes. C'est-à-dire que le lobby financier nous dit que d'ici 10 ans, 15 ans, ce qui va se généraliser, c'est cette fausse viande fabriquée à partir de cellules souches, comme on fabrique de la peau artificielle pour les grands brûlés. Et je dirais, il suffit de regarder quelles sont les sociétés qui sont là derrière. Google, Facebook. Il suffit de regarder, y compris au niveau européen, le fameux consortium créé par Jeremy Kohler avec un seul objectif qui est d'enterrer, d'en finir avec l'élevage. Et je dirais, ce lobby, c'est déjà aujourd'hui plus de 10 billions, je dis bien billions de dollars. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une menace sur l'élevage à l'échelle internationale.
Est-ce que vous êtes favorable alors à cette viande artificielle ? Est-ce que vous considérez que c'est, je ne sais pas, un futur proche, une menace, une perspective, Brigitte Gauthier ?
En fait, c'est hyper gênant de discuter de ce truc-là. Nous, on n'a pas forcément une position là-dessus. Les scientifiques, en fait, sont bien moins optimistes que nous. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas qu'avec des décisions politiques aujourd'hui, de toute façon, la volonté politique n'est pas là, on va réussir à réduire la consommation et du coup, arrêter les formes d'élevage. Alors, je pense que, pour ces gens-là, en tout cas, puisque pour en avoir rencontré un, Marc Post, au cours d'une conférence, lui, il n'est pas végétarien, son objectif, c'est pas un objectif vegan ou je sais pas quoi, c'est de répondre à une demande croissante de viande. Et du coup, il est moins optimiste que nous, puisque nous, on pense que finalement, en exposant les arguments, en montrant la façon dont on sont élevés et tués les animaux, on va pouvoir encourager les gens à changer leur mode d'alimentation. Alors, avec Monsieur Ariès, on diffère sur juste un point, finalement, c'est le fait de considérer les animaux comme de la nourriture à notre disposition ou pas. Ensuite, je pense que c'est notre seul point d'écart.
Brigitte Gauthier, je vais juste vous embêter à nouveau. Oui. Est-ce que finalement la perspective de faire de la viande avec des cellules souches, ça n'est pas une manière de perfectionner le tofu, je le dis de manière un peu caricaturale, parce que le fait d'utiliser un substitut de viande, est-ce que ça vous paraît être une bonne solution, une mauvaise?
Ce marché-là ne s'adresse pas du tout aux véganes. Il s'adresse justement aux gens qui mangent de la viande.
Non, ça c'est faux. Voilà. Regardez aujourd'hui quelles sont
véganes,
les positions.
Les véganes savent se manger autrement.
Pas tous les deux.
Les véganes se nourrissent aujourd'hui autrement. Ils n'ont pas besoin de fausse viande par rapport à ça. Et puis vous faites un mélange entre les viandes issues de cellules souches et puis les trucs qu'on trouve aujourd'hui en magasin qui sont faits à base de tofu ou à base de gluten notamment. Mais la question, elle n'est pas là. Aujourd'hui, on a un sujet bien plus important, c'est la question de l'élevage industriel. Aujourd'hui, le poids du lobby de l'élevage intensif, il est juste énorme. Et là, au lieu d'avoir un front commun qui va combattre l'élevage intensif. L'élevage intensif, c'est 80% des animaux qui sont aujourd'hui dans des élevages fermés, sans avoir d'accès à l'extérieur, et des projets qui continuent de se faire. On peut parler des 17 000 porcs sortis à Escoubès, Escoubès, c'est dans les Pyrénées Atlantiques, si je ne me trompe pas, et on a comme ça tout un tas de projets gigantesques pour continuer d'enfermer. Et donc là, on a des combats à avoir ensemble autour de cette question des conditions d'élevage des animaux qui est l'urgence aujourd'hui. Nous, on continue de propulser l'idée qu'on pourrait avoir un monde gagnant-gagnant où les animaux ne seraient plus utilisés comme ressources alimentaires. Mais quelque part, ça, c'est le truc de demain. Aujourd'hui, les industriels, c'est de la viande industrielle qui nous manque. Et en fait, votre modèle, il est vegan quand même à 90%.
Alors, Paul Ariès,
C'est un vegan
peut-être que
non
assumé. Non, mais qu'est-ce que l'on fait de ces 80% d'animaux, nous dit Brigitte Gauthier, qui aujourd'hui sont dans des conditions tout à fait insupportables pour notre sensibilité. Alors, en tout cas, je pense la vôtre aussi, d'ailleurs.
Mais bien sûr, c'est-à-dire qu'il faut changer, c'est évidemment, de système d'élevage. Mais je ne peux pas laisser dire un certain nombre de contre-vérités. Par exemple, L214 refuse de nous aider pour développer les abattoirs de proximité ou l'abattage à la ferme qui serait bien meilleur pour effectivement les animaux, pour les éleveurs. Sa politique, c'est une politique de la terre brûlée. C'est-à-dire que systématiquement, l'objectif, mais ils le reconnaissent de façon un peu feutrée, c'est l'abolition de l'élevage. Et qu'on nous dise pas que les milieux végans ne sont pas les VRP des fausses viandes industrielles. Je dirais, sur la propagande que vous diffusez en destination des enfants, vous présentez cette fausse viande comme la viande du futur. Prenez l'association animaliste Gaïa en Belgique, elle promeut ces fausses viandes. Prenez Paul Shapiro, l'un des principaux végans à l'échelle mondiale, qui vient de publier un ouvrage salué comme le Washington Post, comme le livre de l'année. C'est le meilleur VRP possible de ces fausses viandes. Donc il y a effectivement aujourd'hui une convergence entre les milieux végans et puis effectivement le lobby financier et même une partie du lobby de la viande, ce qu'il y a de pire. C'est-à-dire que la principale entreprise au monde en matière de production de viande, ThyssenFoods, a pour objectif de devenir une entreprise végane.
Brigitte Gauthier.
Alors, sur la question des abattoirs mobiles, aujourd'hui, vous avez dit, il y a 265 abattoirs en France. Il n'y en a pas 265, il y en a 1000 qui tournent à plein régime et qui tuent un peu plus de 3,5 millions d'animaux par jour. Alors, je ne vois pas comment, aujourd'hui, les abattoirs mobiles pourraient solutionner ce truc-là. Aujourd'hui, dans les abattoirs, on a 80% des abattoirs qui ne répondent pas aux normes. Ça a été détecté quand, justement, on a commencé à montrer les images des abattoirs, notamment celui d'Alès, celui de Vigan, celui de Mauléon, où on a eu une commission d'enquête qui a été déclenchée et une inspection généralisée des abattoirs d'animaux de boucherie, donc là des 265, qui montrait que 80% des chaînes d'abattage présentaient des non-conformités. Et donc là, l'idée super nouvelle, c'est de dire « Ah bah tiens, on va de nouveau abattre à la ferme ». Quels sont les contrôles? Tout ça, c'est complètement flou. C'est-à-dire qu'on va retourner à un système, enfin je ne sais pas si vous avez assisté, et je pense...
Faux.
La tuerie du cochon.
Laissez terminer, Brigitte.
La tuerie du cochon à laquelle on assiste dans les fermes, enfin, elle n'est pas, pour le cochon en tout cas, elle est vécue de façon aussi terrible. Les abattoirs mobiles ne peuvent pas répondre aujourd'hui à la demande de viande qui est absolument extraordinaire. Et je reviens sur ce que je dis. Enfin, le modèle agricole que vous prenez correspond à un modèle alimentaire à 90, voire même plus, vegan et très très peu de viande. Enfin voilà. Après nous ce qu'on dit, là où on va avoir vraiment la différence, c'est que on n'a aucune nécessité à consommer des produits d'origine animale pour vivre en bonne santé. Et alors sur Gaïa, sur Paul Shapiro, sur un certain nombre effectivement d'associations, alors de défense des animaux ou et vegan ou et antispéciste, qui disent bah effectivement, on a un certain nombre de scientifiques aujourd'hui qui promettent, qui cherchent, en tout cas, enfin, je pense pas que vous soyez contre la recherche d'une certaine façon, qui cherchent une solution pour que la demande croissante en viande n'ait pas les conséquences qui sont prévues en termes de réchauffement climatique, en termes de risques sanitaires sur l'antibiorésistance, etc., en termes social, etc., et quand vous me parlez des paysans dans les autres pays, en fait, aujourd'hui, leur modèle économique il est complètement déstabilisé parce que notamment la France, elle exporte vers ces pays-là.
On voit vos critiques, on va laisser répondre Paul Ariès.
Donc on a vraiment, enfin, il y a le mouvement vegan n'est pas dans son ensemble favorable ou défavorable à la viande de culture. La promesse de la viande de culture, c'est de dire on va obtenir un produit équivalent à la viande sans faire tuer sans toutes les conséquences environnementales.
La réponse,
voilà, nous on attend qu'est-ce
alors,
que ça donne.
Déjà, lorsqu'on parle effectivement d'abattoir de proximité ou d'abattage à la ferme, c'est pas le retour au Moyen-Âge, ni même au 19e siècle. C'est tout simplement d'utiliser...
Aujourd'hui, les normes l'interdisent strictement.
Ah non, pas du tout. C'est légal depuis mai dernier à titre d'expérimentation sur le modèle de ce qui se pratique, sur le modèle de ce qui se pratique avec succès en Suède, avec des camions itinérants, et on peut aussi regarder du côté de l'Allemagne avec des caissons pour cet abattage et pour qu'effectivement, je dirais qu'il y ait un suivi le plus direct par les humains. Mais lorsqu'on parle d'ailleurs de viande cultivée ou de viande propre, c'est du vocabulaire marketing. En réalité, il s'agit tout simplement d'une fausse viande avec un bilan énergétique effroyable. Et d'ailleurs, cette fausse viande, pour pouvoir la cultiver, il faut utiliser par exemple des hormones de croissance qui sont interdites pour le bétail. Il faut aussi utiliser beaucoup d'antibiotiques et beaucoup de fongicides. Et puis je dirais l'argument peut-être essentiel pour moi, c'est que tout simplement, si l'agriculture industrielle est aujourd'hui incapable de nourrir 8 milliards d'humains, un humain sur 8 n'a pas assez, l'agriculture végane serait également incapable de le faire. Parce que la seule solution pour pouvoir remplacer le fumier animal, ça serait toujours plus d'engrais chimiques, c'est toujours faux. Plus de produits phytosanitaires.
On va laisser répondre Brigitte Gauthier.
Non, ça c'est faux. Il y a des cultures qui se font aujourd'hui en rotation justement avec les légumineuses. Donc
Brigitte
le
Gauthier,
modèle d'agriculture
juste
végétalienne,
point,
il
vous
peut
allez,
exister.
Vous allez, donc, en imaginant qu'une partie non négligeable de l'humanité se convertisse au véganisme, vous modifieriez complètement l'écosystème, la diversité animale, c'est-à-dire toutes ces espèces animales
qui ont disparu 50% en 40 ans.
Mais les autres
là,
qui sont encore.
Donc, c'est l'élevage y contribue. Ah,
mais ces élevages qui, eux, à leur manière, et j'avoue qu'elle est paradoxale, contribuent à la biodiversité. Le fait que cet élevage il s'insère dans une agriculture avec une partie élevage et une partie agricole. Qu'est-ce que vous en faites, Brigitte Gauthier, si dans le futur on se convertissait tous au véganisme?
Eh bien, en fait, l'idée n'est pas de faire une séparation entre les humains d'un côté et les autres animaux de l'autre et de se dire, on n'aura plus aucune relation avec les animaux puisqu'on est incapable de se comporter correctement avec les animaux. L'idée, c'est quand même de vivre encore aux côtés des animaux. Les animaux qui entretiennent nos paysages, ce sont des animaux qui sont vivants. C'est pas les animaux morts. C'est effectivement un autre modèle à imaginer, à manquer. Et
je vais faire référence. Même une autre anthropologie.
Exactement. C'est un changement de civilisation, effectivement. Et comme dirait Florence Burga, ce qui nous manque le plus, c'est l'imagination. C'est imaginer un autre modèle de société qui ne considère pas les animaux comme étant simplement des objets à notre disposition. On les élève, on les fait naître, on les tue, etc. C'est autre chose. Et c'est ce modèle-là sur lequel on est.
Voilà, c'est ça qui vous embête. Non, parce que on a bien entendu votre opposition à la viande synthétique,
on n'est pas obligé de passer par là. Enfin, vraiment, c'est pas une question finalement.
Pour aborder une autre question, la question de la biodiversité, le modèle anthropologique, finalement, si on est par exemple attaché à une certaine vision du terroir, eh bien nécessairement, on est dans une branche de l'écologie qui ne s'oppose pas à l'élevage et à la consommation de viande.
Mais je dirais que les penseurs de l'antispécisme, puisque le mot a été cité, ne sont pas des écolos. Je dirais, ils haïssent l'écologie, puisque pour eux, la nature, son symbole, c'est la prédation. Et d'ailleurs, je dirais, Brigitte, c'est un peu comme
Brigitte
une poupée russe. Oui, c'est-à-dire qu'elle a de multiples figures. Là, elle nous tient un discours soft, mais lorsqu'elle fait partie du triumvirat, qui dirige la revue Les Cahiers Antispécistes, je dirais, qu'est-ce qu'on trouve dans Les Cahiers Antispécistes? On trouve des textes, alors non simplement, bien sûr, si on supprime l'élevage, on supprime aussi, il ne faut pas se cacher, les animaux d'élevage. Mais on nous dit aussi que la principale prédation... Non, mais on va pas garder tous les animaux d'élevage si on les consomme pas. Et on nous dit aussi que l'essentiel de la prédation, c'est la prédation animale. Et vous publiez des textes où l'on dit qu'il faudrait aussi supprimer les prédateurs animaux. Je dirais, moi, j'invite vraiment les auditeurs de France Culture à aller regarder le dernier numéro que vous avez publié des Cahiers Antispécistes où on dit qu'il faudrait supprimer les animaux sauvages pour ne plus qu'ils souffrent.
On va laisser Brigitte Gauthier répondre.
Oui, donc effectivement,
la prédation animale.
Sur la prédation animale, c'est un vrai problème.
On a pu lire qu'il y avait certains militants qui proposaient des solutions, comment dirais-je, radicales. Par exemple, nourrir les animaux sauvages avec des croquettes ou ce genre de choses. Qu'est-ce que vous en pensez?
Les Cahiers, c'est une revue de réflexion. C'est-à-dire qu'on va proposer des textes qui sont d'ailleurs en opposition, parfois les uns avec les autres. Et l'idée, c'est de réfléchir. Donc, effectivement, aujourd'hui, les animaux sauvages souffrent de multiples façons. Il y a effectivement la question de la prédation, il y a la question des maladies, il y a la question des épidémies, etc. Et donc, on peut se poser la question de comment on peut réduire la souffrance. Parce que la dichotomie, d'un côté il y a la nature, on n'y touche pas, de l'autre côté il y a nous, les hommes, on est civilisés, machin. C'est pas aussi binaire que ça. C'est pas aussi binaire. Et donc j'invite effectivement les gens à lire cette revue magnifique, Les Cahiers Antispécistes, qui sont une revue de réflexion, qui propose des réflexions qui ne sont pas prescriptifs, mais qui disent, ben voilà, il y a des sujets, on peut s'interroger, on peut ne pas pousser des cris d'orfraie dès qu'on propose une réflexion, et puis s'interroger sur notre rapport avec les autres animaux, c'est-à-dire y compris les animaux sauvages. Et là, j'invite à lire aussi Zoopoliste, Sudan Hanson et Will Kimnica, qui proposent, qui sont les premiers à proposer un autre modèle de société.
On mettra les autres titres sur le site, dont La face cachée de nos assiettes, votre livre chez Robert Laffont. Un mot de conclusion, Paul Ariès.
Moi, je crois qu'en réalité, il faut tout simplement se souvenir que le prototype même de la ferme écologique, c'est une ferme polyvalente. C'est-à-dire qu'il produit à la fois de la viande, du lait, des légumes, des fruits, mais aussi de la bonne terre.
Et que ce sont les animaux vivants qui font qu'on a des excréments, de la bonne terre. Les animaux morts n'en font pas.
Oui, mais avant d'être abattus, les animaux sont vivants.
Merci Paul Ariès, lettre ouverte aux mangeurs de viande qui souhaitent le rester sans culpabiliser. C'est publié chez Larousse. On écoute Marielle, Jean-Pierre Marielle, en duo avec Rochefort, Des enfants gâtés.
Dans le Paris des Républiques, l'accordéon nostalgique a semé bien des musiques dont il reste des échos. Dans nos cœurs, il y a des rengaines dont les rimes incertaines se prenaient pour du Verlaine, du Bruant ou du Carco. Le chanteur des rues qui brame à votre bon cœur, messieurs, dames, Paris sera toujours Paname et tout ça ne vaut pas l'amour. Lorsque les télés s'allument, pauvre fantôme des brumes, s'en revient succès posthume, nous hanter au fond des cours. Et allez donc, envoie la ritournelle de la chanson gnangnan et chauvine et vieux jeu. Réveille un peu le piano à bretelles, à chaque fois qu'on l'entend, on a les...